Vous êtes sur le podcast de la Zone payante sur Cube. Merci de vous joindre à nous. Vous savez que vous pouvez nous écouter de façon audio sur la plateforme cube.ca, sur Cube Radio. Vous pouvez aussi nous regarder. Je crois qu'on va être en YouTube aussi cette fois-ci. Donc, vous pouvez nous visionner sur cube.ca en vidéo ou sur YouTube. C'est une émission spéciale sur les joueurs autonomes. Il y a eu beaucoup de mouvements. On voulait un peu comme faire une pause avant le prochain épisode, histoire qu'on soit tous sur la même page. On va essayer, mais c'est sûr qu'on fera pas le tour de toutes, là, parce qu'il y a eu plus que 100 signatures.
Ah non, ça c'est impossible. Il faut pas oublier, là, il va en avoir d'autres. T'sais, là, les gros noms sont partis, il n'y a pas de doute. Mais dans les prochaines semaines, ça va continuer. On va encore plus perdre le fil. Mais écoute, on va voir ça. Moi, je vois ça comme un petit guide. Les gens peuvent l'écouter, le réécouter plus tard s'ils ont des interrogations. On fait le tour des principaux.
Bon, ben regarde, moi là, je t'ai identifié 5 moves que j'aimerais que tu me parles, OK? Le premier, c'est sûr que c'est tout le temps lui qu'on regarde parce que c'est un corps arrière, parce que c'était le meilleur qui était sur le marché. Puis c'est lui déjà qu'on avait identifié dans les émissions précédentes comme le meilleur joueur autonome étant donné sa position, Kirk Cousins. C'est, en plus, tu le connais bien, il a joué à Minnesota pendant plusieurs années. Là, on lui a donné 100 millions pour aller jouer avec Atlanta, qui joue dans une mauvaise division, mais qui a pas une bonne équipe non plus. Comment tu vois cette signature-là pour Atlanta?
Bon, Kirk Cousins, évidemment que tu commences par le couteau dans le cœur, là, je le savais, je te connais, mais bon. C'est comme ça. Je vais vivre avec. Mais Cousins,
bon. C'est pas sûr que tu vas t'en ennuyer tant que ça, là.
Ben, c'est parce que là, à date, quand la solution, c'est Sam Darnold, disons que je me sens pas très fébrile. Mais, comme je te dis, j'ai le feeling, là, que ça va changer au repêchage puis que je vais être un homme plus heureux. Mais pour l'instant, Kirk Cousins, ben, ça fait mal aux Vikings, là, première des choses. Écoute, là, c'est plus pantoute la même attaque sans lui. Cousins, bon, on parle de 4 ans, 180 millions, mais la vraie valeur de son contrat est dans les deux premières années. Tu sais, les Falcons ont pris un engagement financier, là, 90 millions garantis sur 2 ans, avec un autre 10 millions qui est à peu près garanti, là. Fait que tu t'engages 2 ans pour 100 millions, grosso modo, puis après, on dirait que c'est plus 2 années d'options, là, dans la structure du contrat. Fait que, Il y a des gens qui vont dire, hey, c'est beaucoup, 45, 50 millions par année. Oui, mais dans le marché actuel des corps arrière, si tu considères, comme moi, que Cousins est un top 12, je te dis pas un top 3, un top 4, là, mais un top 12, ben, t'es dans ce range-là, à peu près, là, maintenant. Tu sais, c'est aussi fou que ça.
Il était top 12 avant de se blesser, là. C'est sûr que sa blessure, ça va quand même être quelque chose à surveiller à son âge, là. Il était top 12 avant.
Oublie pas qu'il avait 18 passes de toucher. C'était le meneur dans la NFL avec son ace receveur Justin Jefferson qui était sur le banc, blessé. Fait que ça en dit long. Moi, j'avais l'impression qu'il avait tourné le coin, mais il reste que c'est un corps arrière qui a une victoire en série avec les Vikings en 6 ans. Ça, faut pas l'oublier non plus. Pour les Falcons maintenant.
En carrière.
Ouais, c'est vrai parce qu'à Washington, effectivement, ouais, t'as raison. Pour les Falcons, ça reste quand même une super belle amélioration parce que la lacune de cette équipe-là l'année passée, on se fera pas de cachette, c'est le jeu des corps arrière. Que ce soit Desmond Ridder, que ce soit Taylor Heinicke, ça faisait pas à job, zéro. Il y a beaucoup d'armes dans cette attaque-là, que ce soit Drake London, que ce soit Kyle Pitts, que ce soit Bijan Robinson, que ce soit Tyler Allgeier. Il y a une bonne ligne à l'attaque. Cousins devrait être bien protégé. Je pense que c'est un bon fit. Écoute, Kyle Pitts va fonctionner à fond de train. Lui, tu sais, ça végète un peu quand même depuis ses débuts. Là, ça a été tranquille plus qu'on pensait. Mais tu vois la façon que Cousins a fait fonctionner TJ Hockenson. C'est devenu un monstre au Minnesota. Il a toujours eu une bonne relation avec ses tight ends. Ce club-là va vraiment lever en attaque. Puis il y avait déjà une défense très surprenante. Là. Pour moi, les Falcons doivent déjà être considérés comme favoris pour remporter la division à cause de ce move-là.
OK. OK. Parlons de l'autre nouvelle. Là, c'est évidemment la vitesse avec laquelle les running backs sont partis. T'sais, on part de l'année passée où personne voulait des running backs. Ils chialaient, ils faisaient des réunions entre eux autres pour se dire qu'il fallait qu'ils se tiennent pour être mieux payés. Puis là, bedding, je dis pas que les salaires sont faramineux, mais l'intérêt était là. Commençons par le à ce que je considère le plus gros nom. Moi, je pense pas que c'est Saquon Barkley. Je pense encore que Derrick Henry est le plus gros nom qui est parti. Il s'en va jouer, écoute, avec les Ravens. Eux autres, ils n'ont pas de chance avec les running backs. Ils sont non. toujours blessés. Mais là, si tout le monde est en santé, puis si Derrick Henry joue 17 matchs, là, aïe aïe.
Ouais, non, moi, je capotais. Quand il a signé, honnêtement, c'est le mariage parfait. Je sais pas si t'es d'accord. Je sais pas si c'est le plus gros nom, mais c'est naturel une association pour moi, Derrick Henry, Ravens de Baltimore. L'équipe la plus physique de la NFL va chercher le porteur le plus physique de la NFL. À part une saison qui a été gâchée un peu par les blessures, je pense qu'il y a 2 ans, Derrick Henry, c'est un joueur durable. C'est un joueur qui a, oui, a beaucoup de millage. Il y a 30 ans, il y a ce point-là qui est inquiétant. Mais tu le mets dans l'attaque des Ravens, c'est plus l'homme à tout faire comme il était rendu au Tennessee. Là. Il y avait juste lui dans cette attaque-là. Il n'y avait plus de receveur, plus de corps arrière. Les Titans, c'était Derrick Henry. Là, tu le mets dans une attaque où il y a un Lamar Jackson, il y a un bon groupe de receveurs.
Ouais, mais moi, c'est juste ça. Là. C'est juste mon seul hic, là, c'est comment que Lamar Jackson va s'adapter à un jeu où, tu sais, je dis pas que Derrick Henry va courir 40 fois par match, là, mais quand même, là, tu sais, là, comment il va s'assurer de vendre le jeu d'option, de lui donner le ballon sur des courts gains. Tu sais, c'est quand même pas, c'est Lamar Jackson, c'est quand même lui qui court le plus de verges au sol, quasiment toutes les années, là, qui est
Écoute,
en santé. Là.
Ça fait 5 ans que Lamar Jackson est le meneur au sol des Ravens. C'est pas normal. Je pense que c'est juste...
C'est pas normal, mais il va changer sa façon de jouer pour Derrick Henry?
Oui, il faut qu'il le fasse. Il faut absolument. T'sais, ça va allonger sa carrière. Ça va être bien pour sa durabilité, Lamar Jackson. Puis à un moment donné, c'est beau là, de tout faire puis de donner le ballon à Lamar tout le temps. Mais ça prend des alternatives. Je pense que les Ravens ont fait le move parfait. Puis écoute, okay. tu parlais des porteurs de ballon. Là. Il y en a une barque là, qui ont signé. C'est impressionnant, là. Veux-tu que je te fasse vite la nomenclature? Saquon Barkley à Philadelphie. J'ai hâte de voir parce que traditionnellement, les Eagles ont pas payé cher leurs porteurs de ballon. Là. Tu regardes dans les dernières années, on avait Miles Sanders, on a donné un petit contrat à DeAndre Swift. Là, on se tourne vraiment vers un porteur sérieux, entre guillemets. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Josh Jacobs de Vegas à Green Bay. Les Packers qui ont choisi de laisser aller Aaron Jones, qui, incidemment, ça c'est le comble, s'en va au Minnesota. C'est toujours drôle là, de faire fâcher un peu les partisans des Packers, là, d'aller leur chercher un joueur. Je pense qu'Aaron Jones
s'en
peut
va
en donner
dans
encore.
Sa division.
Ben oui, exactement. Joe Mixon qui est échangé des Bengals aux Texans. DeAndre Swift, j'en parlais, il passe des Eagles aux Bears.
Je veux juste arrêter sur Joe Mixon. Là. Moi, ouais. C'est une totale surprise de Joe Mixon. Comment que les Bengals vont se déshabiller de T. Higgins puis de Joe Mixon le même été?
Ben, les Bengals, ça faisait un bout là, qu'on parlait de Joe Mixon comme d'une possible coupure. T'sais, c'est pas nécessairement nouveau. L'année passée, les rumeurs étaient très fortes. Je pense qu'ils ne seraient pas arrivés à s'entendre à long terme avec lui. Ils ont été chercher Zach Moss, mais ce qui est étrange dans ce geste-là, ils ont été chercher Zach Moss. Là, OK, on laisse aller Joe Mixon, alors que à peu près tous les spots de running back étaient comblés. Il était temps que les Texans les appellent, là, parce que Joe Mixon se serait ramassé tout nu dans la rue. Il y aurait peut-être eu Dallas, qui a encore une ouverture. Mais ça s'est fait drôlement, disons, là, de la part des Bengals. Sinon, ben écoute, là, il y en a d'autres. Attends un peu, je les avais devant moi. Tony Pollard, qui s'en va au Tennessee, il va encore être dans un comité. Là, il va se retrouver avec le jeune qu'ils ont repêché l'an passé. Austin Eckler, t'en parlais en début d'émission, s'en va avec les Commanders. Il part des Chargers, va avec les Commanders. Devin Singletary, qui était partant à Houston, qui a étonné l'année passée, s'en va avec les Giants. Gus Edwards, des Ravens, aux Chargers. Zach Moss, j'en ai parlé. Puis Antonio Gibson, des Commanders, aux Patriots, en appui à Ramondre Stevenson. Fait que, écoute, je viens de te nommer 12 porteurs de ballon qui ont changé d'adresse dans les 2 premiers jours. Moi, j'ai jamais vu ça. On dit que la valeur, il n'y en a plus, les porteurs de ballon, mais il y a 2 choses qui expliquent ça. Là. C'est simple. le plafond salarial a augmenté de 30 millions cette année. Et le repêchage, on va sûrement en reparler, on va sûrement avoir un spécial repêchage. C'est très, très, très tranquille, les porteurs de ballon cette année. Là. Fait que ça a aidé le marché.
Allons un peu du côté de la défensive. Daniel Hunter, Christian Wilkins, Chris Jones, trois méga joueurs qui on s'attendait à ce qu'il y ait des gros deals. C'est le cas. Daniel, on peut commencer par Daniel Hunter, là, lui qui est le moins chanceux des trois, mettons, là. Mais qui est quand même, qui s'est quand même trouvé une niche, puis ça sera pas facile de jouer contre eux autres.
Non, il s'en va à Houston, Daniel Hunter. T'sais, c'est un gars qui régulièrement a ses 12, 14, 15 sacs. Là. T'sais, c'est un très bon producteur. Puis ce qui est bien de lui.
16 l'année passée, là. 16 sacs. C'est la première fois qu'un joueur de 16. C'est la première fois qu'un joueur qui a fait 16 sacs et change d'équipe depuis 2001.
Ah ouais, j'avais pas vu la stat. C'est super intéressant, ça, comme statistique. Ben, ça fait mal au cœur comme fan des Vikings, mais ils ont fait des moves pour combler. Ils sont allés chercher Jonathan Greenard et Andrew Van Ginkle. Que Van Ginkle, toi, tu dois pas l'aimer trop.
Non, moi, j'adorais.
Ouais, tu l'appréciais? Moi, je trouvais que.
All around.
Ouais, puis tu sais, il était pas tout le temps régulier, il était pas toujours sur le terrain, mais quand il est là, il fait sentir sa présence. Fait que j'ai hâte de voir, là, dans un rôle vraiment peut-être plus régulier.
Ben, en fait, il était régulier quand il y a eu des blessures. Quand c'est ça aussi, là, c'est qu'il a été très bon au
début.
Quand Jalen Phillips est blessé, c'est ça. Ouais. Il a aussi beaucoup joué en début d'année parce qu'il joue à l'intérieur. Après ça, quand Phillips est blessé, il joue à l'extérieur. Mais c'est des gars très versatiles. Une petite chose comique sur Andrew Van Ginkle, c'est que lui, il venait d'un junior school.
Ouais.
Les gens se demandaient parce qu'il avait pas réussi son SAT. Là. Je lui ai dit, il est assez intelligent pour jouer au football. C'était ça un peu, mais finalement, oui, inquiète-toi.
Ça a l'air à bien aller.
Il est très bon, il était brillant.
Ouais. Fait que Hunter, ben écoute, juste pour finir sur Hunter, il se retrouve à Houston. C'est une maudite belle situation. Là. T'sais, c'est un club clairement en ascension. Eux, ils ont choisi de s'améliorer sur le court terme parce que je pense qu'ils savent là, qu'ils embarquent dans une belle fenêtre. Greenard était très, très bon, 3 ans de moins que Daniel Hunter, mais je pense qu'ils se disent, on s'assure là, d'une extraordinaire protection avec Daniel Hunter et Will Anderson Jr. Les Texans vont être beaux à voir défensivement.
Bon, Wilkins, un ancien aussi des Dolphins qui s'en va avec les Raiders, va pairer avec Max Crosby. Un autre, tu sais, ça aussi, là, c'est un joueur que les partisans des Dolphins, puis même les Dolphins l'an dernier, essayaient de signer. On lui a offert 20 millions, il l'a refusé, il a joué sa dernière année en espérant aller chercher plus. Allez, il va chercher presque 28 millions par année. Je comprends que c'est pas moi qui paye, là, puis ils peuvent bien payer ce qu'ils veulent, mais c'est quand même un gros montant pour un joueur d'intérieur. Est-ce que tu penses qu'il va aller chercher des chiffres similaires à ce qu'il a fait avec les Dolphins l'an passé?
Je sais pas, il a fait 9 sacs du corps l'an passé. Là. Moi, ça m'a épaté un peu. Je sais pas s'il peut répéter ça. C'est sûr que ça va aider de jouer avec Max Crosby. Mais il y avait quand même des bons joueurs autour de lui à Miami aussi. Il faut pas l'oublier. Oui. C'est beaucoup d'argent. En fait, moi, ce qui me questionne dans ce geste-là des Raiders, c'est qu'ils sont pas à un joueur près d'aller au Super Bowl. Donc, ils investissent énormément à cette position-là. Moi, je me serais attendu que ce soit une équipe qui est soit en ascension claire ou qui est sur le bord d'eux. Là. Les Raiders, pour moi, en tout cas, à moins que j'en fasse une mauvaise évaluation, sont clairement pas là. Ça reste qu'ils obtiennent tout un joueur de football, mais je me questionne juste sur le timing d'y aller pour un move aussi costaud que ça, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent.
Il y a une grosse personnalité. Les gens vont l'adorer à Las Vegas.
Oui.
C'est sûr que c'est un gars qui fit très bien à Vegas. Puis on lui souhaite bonne chance. Clark. Jones, excuse-moi. Parle-moi de Jones. Chris Jones, là, c'est lui qui a signé le plus gros contrat. Pas grand-chose à dire à part tant mieux pour les Chiefs.
Tant mieux pour les Chiefs, puis tant mieux pour lui. Il a misé sur lui l'an passé. T'sais, tu te rappelles, il a fait une longue grève. Il est arrivé après le début de saison même. Il a raté le premier match contre les Lions. Puis écoute, il n'y en avait pas là, de contrat à long terme. Là, il vient de signer pour 3 ans à gros, gros, gros prix. Fait que c'est la preuve qu'il a gagné son pari. Puis tant mieux qu'il ait gagné son pari, ça a servi sa cause, ça a servi celle des Chiefs. Chris Jones est maintenant là, dans les 2-3 meilleurs joueurs défensifs de la NFL, clairement. Les Chiefs en avaient besoin, ils pouvaient pas s'en passer. Puis on s'en était parlé dans notre émission de fin de saison après le Super Bowl. Il avait été clair dans ses intentions au défilé des Chiefs. Là, il avait dit je vais être là l'année prochaine, l'autre d'après et l'autre d'après. Fait qu'il y avait déjà, je pense, les paramètres d'un contrat, peut-être pas tous les détails là, qui étaient arrêtés, mais il semblait lui-même parler de 3 ans. Je pense que la consigne à son agent était très, très, très claire. Je ne m'en vais pas d'ici.
Bon, moi, je considère qu'on a couvert les plus grosses signatures de joueurs autonomes. Parlons maintenant des signatures plus mineures, là, ou B, là. On peut commencer par Russell Wilson. Là. Russell Wilson est quand même un pro bowler puis un gars qui a gagné le Super Bowl, là, mais on peut-tu dire que c'est un immense move des Steelers de l'avoir signé? Moi, je pense que c'est un immense move de l'avoir signé à 1 million. Mais est-ce que ça va changer les Steelers pour l'an prochain?
Je pense pas que les Steelers vont être tant que ça métamorphosés, là, mais écoute, c'est quand même un upgrade par rapport à Kenny Pickett ou Mason Rudolph. Pour moi,
c'est clair. Wilson a lancé 26 passes de toucher, là, c'est quand même 17 de plus que Pickett l'an passé.
Puis il va être capable de sortir plus du trouble quand la pression monte autour de lui. Là, tu sais, Wilson, bon, il a plus sa mobilité de 2014, 2015, 2016, mais il est encore capable de bouger dans la pochette. Le truc pour les Steelers, c'est que le risque est à peu près inexistant parce que, comme tu disais, ils payent au minimum parce que c'est les Broncos qui ont encore son salaire. Là. C'est eux qui le payent.
Mais pourquoi il a accepté? Mais quand même, je veux dire, Wilson, il aurait pu demander 20 millions. Là.
Parce qu'il voulait la meilleure opportunité possible, puis il n'y a pas des équipes qui l'auraient embauché à 20 millions. Là. Je pense que pour une équipe comme les Steelers, c'est parfait. Ouais. Là, sais-tu combien qu'ils ont d'argent de consacrer à leurs 3 corps arrière, les Steelers? 5 millions.
Tu es pas en bas de 5 millions?
Ouais. 5 millions. C'est fantastique, là, quand même. Ça leur permet de. Garde, ça leur a permis d'aller chercher, admettons, un gars comme Patrick Queen, le secondeur. Tu sais, ça te permet de renflouer là, les effectifs ailleurs. Puis Russell Wilson, comme je te dis. Lui, il est payé anyway. Tu sais, je comprends là, qu'il aurait pu dire « Ah ben moi, même si les Broncos me versent 38, faut que j'aille chercher 25 ailleurs. » Mais dans son intérêt à lui, c'était de jouer dans la meilleure situation possible, rapidement, de régler ça vite. Puis écoute, il va quand même toucher 39 millions.
On parlait de Sam Darnold. Ouais, mais Sam Darnold a quand même signé pour 10. Tu sais, dis-moi pas qu'il valait pas Sam Darnold.
Non, ça c'est clair, là. Mais je pense que dans l'équation, ils considèrent les 38 qui touchent de Denver. Ça n'a pas le choix.
OK. Allons-y avec... on en a parlé un peu, Patrick Queen, c'est un leader sur le terrain. Les Ravens vont quand même s'en ennuyer de Patrick Queen, puis il signe dans sa division. Ça, c'est un autre qui va subir les foudres de ses anciens partisans. Qu'est-ce que tu penses de ça, là, rapidement, Patrick Queen?
Ben là, c'est pire que l'ancienne division. Si c'était juste une ancienne division, là, Jean-Nic, mais là, c'est l'ennemi juré, l'ennemi absolu. C'est l'écœurant de l'autre bord. Puis là, écoute, Steelers-Ravens, depuis 15 ans, 20 ans, on s'entend que c'est peut-être la plus grosse rivalité dans la NFL. C'est des games où vraiment les gars s'entretuent. Patrick Queen, non, c'est un bon move des Steelers.
Ben, mettons qu'on revient sur ce qu'on disait tantôt sur Saquon Barkley. C'est Tiki Barber qui a dit de Saquon Barkley qui a signé aussi avec un ennemi de la division, les Eagles. You're dead to me.
Tu sais ça. Il y a beaucoup de joueurs là, cette année d'ailleurs. Aaron Jones avec les Vikings, là, qui était avec les Packers. Il y en a une couple qui ont sauté comme ça, mais pour moi...
Jordan Poyer des Bills aux Dolphins.
C'est vrai. Mais il n'y en a pas un move aussi marquant que ça. En termes de rivalité, je parle, là, c'est toutes des grosses rivalités. Mais Ravens-Steelers, depuis 20 ans, c'est des matchs qui se décident par 3 points. Chaque verge est gagné durement. Tu vas chercher un gars comme Patrick Queen, tu sais, il sait c'est quoi là, ces rivalités-là. Il est bon en couverture de passe, il est amélioré en tout cas. Il peut blitzer. C'est un atout majeur là, pour les Steelers.
OK. Que Michael Pittman soit prolongé avec les Colts, ça te dit quoi?
C'est pas mal d'argent, mais en même temps, Michael Pittman, c'est un must absolu. Tu as un corps arrière jeune, Anthony Richardson, qui a presque pas joué cette année. tu te dois d'avoir des armes autour de lui, sinon il va être tout perdu, il va courir comme une poule pas de tête, puis il va se reblesser s'il fait juste ça, courir comme une poule pas de tête. Fait que c'était un must, il fallait ramener le talent. Les Colts, c'est un peu ça qu'ils ont fait cette année sur le marché. Il n'y a pas de grosses signatures impressionnantes là, du côté des Colts où tu te dis « Oh wow, as-tu vu le move qu'ils ont fait? » Mais ils ont ramené plusieurs de leurs joueurs. Tu sais, des Kenny Moore, un excellent demi de coin. Ils ont ramené Pittman.
Il va être le slot le cornerback slot le mieux payé de la ligue.
Exactement. Tu sais, ça te démontre là, la valeur qu'il y a actuellement. Il y a quelques joueurs comme ça qui ont ramené à bord. Puis des fois, ça, on se fait les gagnants-perdants des agents libres. Puis tu sais, c'est un exercice intéressant. On pense pas à ces équipes-là parce que il n'y a pas eu de move majeur qui fait les manchettes. Mais des fois, de garder ton monde, tes jeunes qui progressent, de montrer à tes vétérans que tu es attaché, ça peut aussi être un gage de succès.
Parle-moi de Mac Jones qui s'en va poursuivre sa carrière avec Jacksonville. Quand on compare les deux statistiques, moi, dire là, je suis pas un fan de Mac Jones parce qu'on le voit bien jouer là, mais quand tu regardes les statistiques de Mac Jones puis quand tu regardes les statistiques de Trevor Lawrence, ils sont pas sérieux. Mais... En tout cas, je comprends que Trevor Lawrence est le partant incontesté à Jacksonville là, mais faudra pas qu'il commence 0-4 là.
Non, effectivement. Puis je pense que c'est super pour Mac Jones de changer d'environnement. Ça peut juste relancer sa confiance. Il était complètement brisé là, en Nouvelle-Angleterre, lui. Que ce soit Bill Belichick ou Bill O'Brien ou le régime qu'il y avait là, peu importe qui, il était incurable. Vraiment, là, il semblait complètement perdu sur le terrain. Il avait peut-être pas toujours la bonne attitude non plus, faut le souligner. Mais là, tu changes d'air, tu t'en vas à Jacksonville, plus de pression, t'es pas le partant, en tout cas, à moins d'une situation d'urgence. Faut le dire, Doug Peterson a une bonne réputation auprès des carrières. Fait que pour les Jaguars et pour Mac Jones, c'est un bon move, mais ça te démontre à quel point c'est une chute extraordinaire. Tu sais, tu te fais échanger contre un sixième choix, 3 ans après avoir été le 15e au total, là. Pas vu ça souvent, une chute aussi vertigineuse.
Josh Rosen, mettons.
Ouais, ça peut se comparer là, dans ces eaux-là.
Je vais faire un petit mot aussi sur les joueurs de ligne intérieure. Écoute, ça partit fort, là, parce que normalement, là, un guard ou un centre, tu sais, c'est pas ceux qui font bien des splashes. C'est souvent ceux qui disent « Ah, je vais m'en chercher un bon à 5-6 millions. Ouais. » Ça a commencé... Eagles signe Dickerson, 21 millions par année. Puis après ça, Robert Hunt s'en va en Caroline, 100 millions pour 5 ans.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est? Écoute, c'est le retour des c'est je me disais peut-être que les linemen, c'est les prochains tight ends à se dire qu'ils sont pas assez payés pis ça, mais ils pourront pas faire ça cette année. Il y a au moins 4-5 joueurs de ligne intérieure à offense qui ont eu des contrats entre 15 et 20 millions. Ouais. C'est de l'argent.
C'est un excellent point. Puis tu fais bien de préciser joueurs de ligne intérieure parce que ça fait un bout que les tackles qui évoluent à l'extérieur, eux, sont très, très bien payés. Là. C'est probablement les mieux payés après les carrières. Mais à l'intérieur, c'est vrai que ça pouvait laisser à désirer des fois les gardes, les centres. Il y a deux choses là-dedans. Un, les équipes, je pense, essaient de plus en plus de se protéger de la pression qui vient de l'intérieur. T'sais, avant, la pression, c'était toujours les edges. Là, maintenant, tu as beaucoup de defensive tackle, tu as aussi des inside linebackers qui blitzent à l'intérieur. Fait que les équipes vont investir de plus en plus sur l'intérieur de leur ligne à l'attaque. Ça, c'est une tendance qui semble claire cette année.
Non, puis les Cowboys de ce monde, comme les Micah Parsons, après ça, ouais. Ils s'enlignent à droite, mais ils rentrent après ça au centre.
Tout à fait, c'est ça. Puis l'autre tendance que je remarque là-dedans, c'est les Panthers sont allés en chercher deux, eux autres, Robert Hunt et Damien Lewis. Ils veulent désespérément protéger Bryce Young. T'sais, ça a été difficile, sa saison recrue.
Ouais, mais là, c'est-tu le bon pari, en tout cas?
Non, peut-être pas, mais on va leur donner, ils essaient quelque chose. Ils sont allés chercher Diontae Johnson, le receveur des Steelers, sans être un receveur hyper complet. T'sais, c'est un gars qui a beaucoup de vitesse. Il va leur amener cet élément-là dans leur attaque qui manquait clairement là avec des Adam Thielen puis des joueurs comme ça. Là, t'investis sur l'intérieur de la ligne à l'attaque. Écoute, si après l'expérience Bryce Young fonctionne pas, tu pourras pas dire, ben ouais, mais on est resté les bras croisés, on espérait qu'il soit bon, puis ça n'a pas marché. Ils vont avoir essayé au moins de faire le nécessaire.
Non,
mais,
les Rams,
mais il y a du travail encore à faire.
Les Rams aussi ont signé deux gars à l'intérieur, Jonah Jackson puis Kevin Dodson. Eux autres aussi, là, ils doivent se dire qu'il faut donner plus de temps à leur corps arrière, mais c'est parce que le problème avec les Rams, c'est que là, on enregistre mercredi soir, mais eux autres, ils ont un problème de cap salarial, là. Ils ont des joueurs qu'il va falloir qu'ils se débarrassent. Fait que je sais pas comment qu'ils vont réussir à garder leur attaque et leur défense intacte.
Ils sont quand même pas mal moins dans le trouble financier qu'ils l'ont déjà été, là, à moins que je me trompe, là. Mais il y a 2-3 ans, là, c'était toujours à côté au cap. Je pense que les Rams ont fait un bon exercice de ménage, là, depuis 2 ans pour se remettre à niveau, là, là-dessus.
OK, est-ce qu'il y avait d'autres signatures rapidement? Peut-être Brian Burns, là, qui a été échangé par les Panthers, un joueur quand même.
Ben, il est jeune.
Bien parce que, ouais, c'est ça, il est jeune.
Il est jeune, mais ce qui me fait rire dans cette situation-là, Brian Burns, c'est qu'il y a 2 ans, les Rams offraient 2 choix de première ronde pour l'avoir. Les Panthers ont dit non. Nous, notre plan, c'est de s'entendre avec lui à long terme. C'est une pierre angulaire de notre fondation. 2 ans plus tard, pas capable de s'entendre avec. On va le laisser aller pour un 2 puis un 5. Tu sais, c'est pas un mauvais échange tant que ça. Mais t'avais 2 choix de première ronde sur la table. C'est ça qui fait mal au cœur. Quand tu compares les deux situations, ben écoute, tu peux même pas comparer tellement l'offre est disproportionnée. Là. Ça fait très, très mal aux fans des Panthers, je pense. Ils voient non seulement Brian Burns s'en aller. Tu sais, c'est un gars dans la mi-vingtaine. Là. Il a encore le temps de s'améliorer. Il est déjà très bon, mais il peut encore s'améliorer. Là. C'est vraiment pas fini. Puis en plus, tu te dis, on a refusé 2 choix de première ronde il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans. Celle-là a fait mal, pas mal.
Baker Mayfield et Mike Evans qui sont de retour aussi à Tampa Bay. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour les partisans qui voient leur équipe investir dans ce qui a marché l'an passé.
Puis Sam Darnold, là, si jamais tu veux me demander si je suis tout ému, parce que Sam Darnold, avant, il n'a pas eu des vraies chances avec les Jets puis les Panthers, puis il n'y avait pas autant de weapons qu'avec les Vikings. Je continue de ne pas croire en ce gars-là. Il complète pas assez de passes. Regarde son pourcentage de passes complétées. C'est toujours parmi les plus bas de la ligue. C'est un gars qui commet beaucoup de revirements. Il échappe beaucoup le ballon. On parle de ses interceptions, mais il y a beaucoup de fumbles à son actif. Tu sais, c'est des traits difficiles à corriger. Là. C'est okay, à un moment donné, là, non.
Moi, rapidement aussi, là, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de partisans des Bills qui nous écoutent, puis on les salue, mais les Bills, ils ont comme fait une espèce de wash là avec plusieurs de leurs vétérans défensifs. Ouais. Ils ont remis des gars, là, tu sais, je pense à Epeneza qui est quand même pas si mal. Mm-hmm. Et ils sont renforcés sa ligne avec Dion Dawkins. Comment tu vois l'entre-saison des Bills jusqu'à maintenant, là?
Prévisible. Pour moi, il n'y a aucune surprise là. T'sais, les Bills étaient pas mal à côté à gorge au plafond salarial. J'aurais aimé qu'ils gardent Mitch Morse personnellement à leur centre. Mais t'sais, un gars comme Gabe Davis, ils ont tout essayé avec lui, le receveur. C'est bof. J'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'argent d'ailleurs avec les Jaguars. Lui, on parle de quoi? Je pense 39 millions. Pas pour un an, évidemment, là, mais quand
3
même.
3 ans, 39 millions. Ouais.
C'est ça. T'sais, bon, pour un gars qui n'a pas produit, qui n'a pas été à hauteur des attentes, moi, je ne suis pas impressionné jusqu'à maintenant. T'sais, ils ont perdu des gars comme Jordan Poyer. Fallait vraiment s'en douter là, que c'était la fin. Mike Hyde, il ne s'est pas encore fait, mais ça devrait se faire aussi. Leonard Floyd, c'était sûr qu'il allait s'en aller. Il n'y a pas de surprise majeure pour moi. Il fallait s'attendre à ça du côté des Bills. Tu n'as pas le choix à un moment donné de faire un genre de reset. La beauté de la chose, c'est qu'avec un Josh Allen, tu n'es pas dans une situation où tout est à recommencer à zéro. Mais ça se peut là, que ce soit une année peut-être à traverser, un petit pas de côté pour en faire 2 en avant.
OK, bon, on fait une pause et après la pause, c'est les questions du public. On en a encore beaucoup cette semaine. Bougez pas.